VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Guinée, le président sortant Alpha Condé est nettement en tête dans le dépouillement partiel du vote à l'échelle nationale, selon les résultats rendus publics par la CENI, la Commission nationale électorale indépendante. Le chef de file de l'opposition, Sélou Daline Diallo, juge le scrutin inéquitable. Il a décidé mercredi de se retirer de l'élection présidentielle. Nathalie Barge.
Après avoir longuement critiqué le scrutin de dimanche qu'il juge entaché de fraude, le principal opposant guinéen, Sélou Daline Diallo, a finalement décidé de se retirer de la présidentielle, selon son directeur de campagne cité par Reuters. Sa décision a été prise alors que la commission électorale commençait à annoncer des résultats partiels mercredi soir. Le directeur de campagne de M. Diallo, Aboubacar Silla, a déclaré que les résultats n'auront rien à voir avec la réalité et qu'ils ne les reconnaîtront pas. La radio a annoncé que le président sortant Alpha Condé avait une avance considérable sur les autres candidats. Toutefois, la plupart des analystes estiment qu'il pourrait y avoir un second tour, probablement entre M. Diallo et M. Condé. Mercredi, dans la banlieue de Coloma Solo Primo, la police anti-émeute a tiré des gaz lacrymogènes et des coups de feu d'avertissement alors que des manifestants montaient des barricades. Suite à ces nouvelles violences, le gouvernement guinéen a appelé la population au calme.
Écoutons à ce propos le ministre des Affaires étrangères, François Lonceni Fall.
Rien ne peut se construire dans le désordre. Nous demandons à tout le monde de renoncer à la rue qui n'est pas la solution. Nous rappelons aux acteurs politiques leur engagement lors du précédent dialogue à privilégier le dialogue au détriment de la violence.
Burkina Faso maintenant, commémoration aujourd'hui du 28e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara. Ce dernier a été abattu lors du coup d'État qui a porté Blaise Compaoré au pouvoir le 15 octobre 1987. Dans l'après-midi, Thomas Sankara et 12 autres victimes ont été enterrés à la sauvette au cimetière de Nagnoin, dans l'est de la capitale, par une vingtaine de détenus de la prison centrale de Ouagadougou, dont Yamba Malik Sawadogo, qui s'est confié à notre envoyé spécial, Bagassi Koura.
Arrivé au cimetière de Darnoin, le régisseur nous a demandé de creuser. Dans un premier temps, j'ai compris qu'il voulait qu'on fasse une fosse commune. J'ai posé la question par deux fois si ce n'était pas possible qu'on puisse faire des tombes individuelles. Alors, il s'est fâché en un premier temps avant de se ressaisir. Il a accordé, il a dit « bon, pas de problème, faites comme vous voulez ». Voilà pourquoi on a pu effectivement creuser les tombes. Mais auparavant, il nous avait dit une dizaine. Donc, on a creusé 10 tombes. C'est quand les corps sont arrivés qu'on s'est rendu compte qu'il y avait 13 corps au lieu donc de 10. Avant l'arrivée des corps, on ne savait pas qui étaient ces gens.
Alors aujourd'hui, le rapport balistique parle de corps criblés de balles. Ça, c'est quelque chose que vous saviez depuis cette nuit.
Oui. Ben, j'avoue que nous avions enterré les corps sanguins. Donc, toutes nos mains étaient totalement ensanglantées, le véhicule totalement ensanglanté. L'ampleur, quand vous voyez comment les gens étaient criblés comme les animaux, c'est vilain. Mais comme je l'ai dit, ils étaient tous identifiables. Surtout Thomas était en rouge, en survêtement rouge. Donc avec le sang, de loin, tant que vous ne le touchez pas, vous ne sentez pas qu'il y a du sang sur lui. Donc c'est comme s'il dormait. Coucher les poings fermés, bouche baissée, c'est comme s'il transmettait un message. Cette image me reste toujours.
Est-ce que c'est une fierté d'avoir enterré un grand homme ou est-ce que ça vous fait mal d'avoir contribué à l'œuvre de ceux qui l'ont abattu?
Non, il y a deux lectures ici. Ça me fait mal parce que quand je parle de ça, jusqu'à présent, j'ai des difficultés. Mais la première lecture est que j'ai l'impression que Thomas n'est pas un homme comme les autres. Parce qu'à sa mort, il y a eu un témoin, Alouna Traoré. Il était là-bas. À son enterrement, il y a un témoin que je suis. Parce que quand je revisite cette histoire, je me demande pourquoi je me suis retrouvé là-bas. Parce que j'étais pas obligé d'aller à cette corvée. D'ailleurs, j'avais dit à mon co-détenu de trouver 20 corvéables. C'est par la suite que je me suis dit, mais non, il ne faut pas envoyer les enfants la nuit tout seul. Donc, je vais les accompagner. Donc, pour cela, je pense que c'est Thomas qui a voulu un témoin, bon, qui puisse quand même retracer la mort atroce qu'il a subie. La deuxième lecture, c'est que souvent je me demande pourquoi moi, parce que ça me fait mal. Quand je regarde, ça me fait mal et je me demande comment et quand est-ce que je pourrais, comment on appelle, vider ça. Parce que dès lors que j'ai commencé à parler, dès lors que j'ai pu déposer devant le juge et dès lors que j'ai commencé à parler, à un moment donné, je sentais que bon, ça va, je me dégageais, mais malgré tout, ça ne va toujours pas. Donc c'est vraiment un choc. Je ressens toujours ce choc.
Le témoignage de Yamba Malik Sawadogo au micro de Bagassi Koura.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Appui des États-Unis à la lutte contre Boko Haram, le président Barack Obama a annoncé mercredi l'envoi de personnel militaire américain au Cameroun pour aider ce pays en proie aux attaques des islamistes nigérians. Michel Joseph.
Au total, quelques 300 militaires américains seront déployés au Cameroun avec pour mission de mener la surveillance aérienne et la collecte de renseignements sur les activités des militants de Boko Haram. 90 ont déjà entamé leur déploiement au Cameroun lundi, a précisé le président Barack Obama dans sa lettre adressée à cet effet aux leaders du Sénat et de la Chambre des représentants. Selon le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, l'assistance militaire américaine s'inscrit dans le cadre des efforts régionaux en vue de contrer la propagation du groupe militant nigérian et d'autres extrémistes. Les militaires américains travailleront en coordination avec le gouvernement camerounais, a fait savoir Josh Earnest, en précisant toutefois qu'ils seront armés pour leur propre protection, mais qu'ils n'assumeront aucun rôle dans les combats.
Notre série sur la crise migratoire pour les migrants africains, le voyage vers l'Europe tourne très vite au calvaire. Les trafiquants et réseaux auxquels ils ont recours profitent de leur soif d'un avenir meilleur pour abuser d'eux et leur soutirer le maximum d'argent. Le reportage de l'envoyé spécial de VOA Afrique en Europe, Nicolas Pinault.
D'Asmara à Tripoli, en passant par Khartoum ou Agadez, les passeurs sont partout sur le continent. Même de l'autre côté de la Méditerranée, ils ne sont jamais bien loin des migrants qui pensent pourtant avoir fait le plus dur en posant un pied sur le continent européen. Impossible d'atteindre la Libye et espérer prendre un bateau sans passer par ces filières. Localement, moyennant quelques centaines de dollars, elle se limite à faciliter la sortie du pays pour gagner discrètement la frontière. L'appât financier est évident, ce trafic génère des milliards de dollars de profits chaque année et l'intérêt des organisations criminelles internationales est croissant. Chaque candidat au voyage paie plusieurs milliers de dollars pour se rendre en Europe. Nicole est une policière allemande qui ne souhaite pas donner son nom. Elle travaille pour Europol.
On peut dire que les réseaux sont plutôt bien organisés, surtout en Afrique et même en Europe. Le crime organisé est toujours à la recherche de nouvelles opportunités, surtout quand le risque est faible.
Tous ceux qui ont pu arriver de l'autre côté de la Méditerranée livrent des témoignages accablants. Outre la privation de liberté, les passeurs leur font aussi subir les pires supplices et de nombreux migrants sont brûlés par les trafiquants dans le Sahara, de la Libye jusqu'au Tchad en passant par le Soudan et l'Égypte. Un homme a ainsi vu son visage brûlé lorsque les passeurs ont mis le feu à un conteneur dans lequel s'entassaient plusieurs dizaines d'entre eux. Nous avons obtenu des images auprès d'un médecin italien de Milan qui soigne les migrants dans un centre d'accueil. Ce docteur a voulu partager avec VOA Afrique ses clichés pour que le monde sache, selon elle, ce que ces personnes endurent tout au long de leur voyage. Les femmes sont aussi souvent victimes d'abus sexuels. Même en Italie, les passeurs poursuivent leurs opérations. Des Érythréens racontent que des individus leur ont expliqué qu'il ne fallait pas s'enregistrer auprès des autorités italiennes pour poursuivre leur voyage. Au contraire, moyennant paiement, ils se chargeraient de leur faire gagner la Suède ou l'Allemagne au plus vite. Les polices européennes sont donc vigilantes à la descente des bateaux pour repérer les possibles victimes de trafic. Giovanni Abate de l'Organisation internationale pour les migrations en Sicile explique par exemple le fonctionnement des trafiquants nigériens.
Les filles sont victimes des trafics d'êtres humains. Elles sont conditionnées depuis le Nigeria à ne pas fuir et à obéir en Europe à leur proxénète. Il s'agit souvent d'une madame qui exploite ses futures prostituées sur les trottoirs.
À des milliers de kilomètres de la Sicile, dans le nord de la France, les passeurs s'activent aussi à Calais, dans la jungle, où plus de 4000 migrants s'entassent en attendant de se rendre en Angleterre. Ils sont présents. Ils monnaient leur service aux Afghans